Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Le lourd secret de Chafika Vaitiana Tassarma, c'est le titre d'un article de la journaliste Caroline Touzin dans la presse d'aujourd'hui. Qui est Chafika Vaitiana Tassarma? Ben, elle a 23 ans, elle est étudiante à la maîtrise en didactique des mathématiques. Sa famille est d'origine sri-lankaise. Elle a été candidate aussi aux élections trois fois ces dernières années, au provincial, au fédéral, pour le Bloc québécois et pour Québec solidaire. Quel est son lourd secret? Ben, elle a été victime d'agressions sexuelles dans son enfance et dans son adolescence, des sévices qui l'empêchaient d'avancer. On se doute à quel point ça peut être traumatisant. Et elle a pu panser ses blessures en grande partie grâce à la Fondation Marie-Vincent qui aide les enfants victimes d'agressions sexuelles. Chafika Vaitiana Tassarma est en studio. Bonjour à vous.
Bonjour, M. Lagacé.
C'est un texte très touchant dans lequel vous avez témoigné aujourd'hui. D'abord, commençons par le contexte. Parlez-nous de vous, parlez-nous de vos parents. Vos parents sont nés au Sri Lanka, sont arrivés au Québec. En quelle année?
Ma mère elle immigrait au Québec pour poursuivre des études supérieures en mathématiques. Donc les mathématiques, c'est une histoire d'amour dans notre famille. Puis au passage, elle a décidé de se marier la famille a décidé qu'elle se marie avec mon père d'un mariage arrangé. Donc c'est dans ce contexte-là que mes parents ont immigré, puis je suis née dans tout ça. Ça n'a pas été facile justement parce qu'elle a pas, elle savait pas que mon père, faut savoir que mon père est un diplôme d'études secondaires 5, l'équivalent au Québec, alcoolique, endetté. C'était pas un beau mélange, on va dire, pour ma mère qui avait des ambitions différentes, on peut dire ça comme ça. Donc l'enfance a été très difficile, puis ma mère, si c'est pas elle qui pouvait vivre ce rêve-là d'éducation, c'est de me le transmettre. Donc on s'est beaucoup rapprochés à travers l'éducation, l'enseignement des mathématiques, puis malgré tout ce qu'elle a pu m'offrir, il y a quand même eu des enjeux de santé mentale assez lourds qui ont bousculé mon enfance.
Et ce qu'on comprend de l'article de la presse, c'est que, bon, la famille tente de se maintenir à flot. Le père est assez absent. Votre mère compense ce qu'il ne rapporte pas à la maison. Il boit beaucoup. Et là, vous passez beaucoup de temps au temple hindou de votre communauté. Et c'est là que surviennent les premières agressions.
Exactement. Donc, dans le fond, ça a été très difficile au début parce que, tu sais, je parlais pas juste d'une agression. Il y en a eu deux, trois. Puis à un moment donné, comme petite fille, puis plus tard, tu te poses la question, est-ce que c'est moi le problème peut-être? Puis ça a été très difficile à comprendre au début. Puis la manière que j'ai pu m'expliquer, trouver une réponse à ces difficultés-là, c'est l'éducation sexuelle. Contrairement à la religion catholique, on pouvait se marier. Donc ces hommes étaient mariés, avaient une conjointe. Parce que c'était
prêtres.
Oui, exactement. Ouais. C'était des prêtres qui pouvaient se marier. Puis malgré ça, ils ont ressenti le besoin d'aller assouvir leurs besoins primitifs sexuels chez une jeune femme. Puis c'est vraiment le tabou entourant la sexualité qui, je trouve, qui a pesé lourd, qui a causé justement ces agressions-là. Donc, ça ressemble un peu à ça, l'explication que j'ai pu me donner pour m'en sortir un peu, avoir un regard différent par rapport à ça. Puis comme je l'ai mentionné, c'est pas juste dans la religion hindouiste que ça se passe. C'est réputé justement dans la religion catholique notamment.
Bien sûr, je veux dire, la religion catholique, que ce soit au Québec, ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Europe, ça a été des usines à pédophiles qu'on a couvert. Là. C'est, je pense pas que c'est pas uniquement dans la communauté hindoue, faut le dire. Mais il y avait, si je comprends bien, il y a quand même un tabou supplémentaire dans votre communauté. Mm-hmm. Et ça, est-ce que je me trompe ou ça vous a peut-être empêché d'en parler plus tôt?
Exactement. Ça m'a empêché d'en parler plus tôt. Je pense que j'en aurais pas parlé si j'avais pas ressenti des effets physiques dans ma productivité, on va dire ça comme
ça. Des effets physiques.
Oui, exactement. Je me rappelle, j'étais au cégep, je faisais mes cours, j'arrivais au cours de chimie, c'était écrit justement dans l'article de Mme Touzin. pleurais, mais je pleurais pas parce que la chimie me rendait émotive. Ouais. Je pleurais parce que je n'en pouvais plus de porter ce poids-là de mon existence. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui roulait pas du tout. Puis c'est la mère d'une de mes amies du secondaire avec qui j'ai gardé un lien, qui devait peut-être sentir cette intuition un peu maternelle que quelque chose roulait pas chez nous. Puis c'est grâce à elle que j'ai pu aller chercher de l'aide. Elle m'a encouragée à aller en parler à une travailleuse sociale du cégep.
Mais comment s'est initiée la conversation? Vous aviez 17 ans à ce moment-là avec la mère d'une de vos amies. Comment ça vient sur le tapis?
Et c'est une excellente question. En fait, nous, chez nous, on pose pas la question, ça va. Donc, avant, ben là,
okay,
oui.
On demande pas ça.
Tu sais, il y a pas vraiment. Tu passes au travers les difficultés que tu peux vivre. Puis, cette mère-là, à un moment donné, on parlait un peu de comment aller à l'école, etc. Puis, elle m'a juste regardé dans les yeux, puis elle m'a demandé comment ça va. Puis cette question est tellement venue me chercher profondément que j'ai pas pu dire autre chose que pleurer, complètement pleurer, à quel point c'était la première personne à qui j'ai raconté tout mon bagage de mon enfance, de ma famille. Ça a complètement justement changé de direction à partir de ce moment-là, là, de parler de santé mentale aussi. Là.
Parce que je le précise, il y a eu les premières agressions à l'enfance, puis après ça, toujours au temple, il y a un autre... Quel est le mot pour les prêtres dans la religion?
Un brahman.
Un brahman. Donc, un autre brahman et un autre homme non identifié qui vous ont agressé adolescente. Mm-hmm. Là, c'est la première fois que vous en parlez à la mère de cette amie. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous libérer de ça une première fois?
C'est pas à ce moment-là que je l'ai senti. Okay. C'est vraiment quand j'ai commencé mes séances de thérapie que là, j'ai senti que c'était libérateur. Mettre le doigt sur pourquoi c'est difficile quand même quand t'arrives à un point physique où t'es plus capable de t'exprimer, tout te rend triste, tout te rend malheureuse, puis t'essaies, tu prends ta petite marche santé mentale, tu ris, tu souris, tu fais du sport, mais c'est plus suffisant, c'est en parler, c'est plus juste la qualité de vie qui compte. Là.
Et c'est comme ça que vous rencontrez la Fondation Marie-Vincent, là, qui s'occupe des enfants qui ont subi des agressions sexuelles, des adolescents aussi. C'est un travail très important que ces gens-là font. Racontez-nous comment ça s'est passé. Vous avez fait 2 ans de thérapie.
En fait, je tiens à préciser que la Fondation Marie-Vincent fait un travail exceptionnel, mais faut qu'on soit référé pour avoir accès à ces soins-là. Puis, justement, en parlant à la travailleuse sociale de mon cégep, elle a pu me... Il fallait pas oublier que ma mère était pas au courant à l'époque, à mes 17-18 ans. Donc, j'avais pas les moyens de me payer de la thérapie. Donc, j'ai pu... il y a l'organisation qui s'appelle IVAC qui justement aide les victimes à avoir des soins notamment de santé mentale. Puis c'est grâce à ça, eux, ils m'ont référé à la Fondation Marie-Vincent. Puis, je ne peux pas assez... parler de l'importance d'avoir une thérapie spécialisée sur les agressions sexuelles. Quand on parle d'agression sexuelle, c'est pas juste la sexualité, c'est le lien de confiance que tu as avec cette personne-là, c'est la manière que tu t'interagis avec les autres. Quand j'étais jeune, je me rappelais, j'avais de la difficulté à avoir des profs masculins, même s'ils étaient super, bienveillants. Je ne pouvais pas être dans la même pièce qu'eux. Ça m'angoissait. Marcher dans la rue, croiser un homme. C'est ce genre d'effet, de petits comportements-là que tu peux pas vraiment expliquer, puis qui teinte complètement ta manière de tisser des liens avec les gens. Puis avoir une thérapie des gens qui sont formés spécialement pour ça, ça change complètement. Surtout quand on parle d'enfance puis d'adolescence, c'est des moments charnières quand même dans la vie de quelqu'un.
Mais au début de la thérapie, je veux dire, il y a quand même un lien de confiance à établir avec la personne qui est thérapeute. Ouais. C'est pas évident le début là, d'une thérapie semblable.
Non, c'est pas évident. Puis je peux pas assez remercier la patience de ma psychothérapeute, de ma psychologue à l'époque, en fait. Je ne la regardais pas dans les yeux. Je fuyais du regard. Je savais que j'avais besoin d'aide, mais je ne comprenais pas. Je savais pas comment m'exprimer. Je sais pas pourquoi j'étais là. C'était difficile. J'étais tout le temps crispée. J'avais pas envie d'être là. Puis, 52 séances plus tard, j'étais capable de mettre des mots sur mes émotions. J'étais capable de m'exprimer. Puis, il y a une chose que j'oublierai jamais, ma dernière séance, justement, par rapport à la première, je fuyais tout, je voulais pas être là. La dernière séance, je sors de la Fondation Marie-Vincent, je lève ma tête, je vois autour de moi qu'est-ce qui se passe, puis je vois une fille, justement, rentrer. On a eu un regard. Moi, je finissais ma thérapie, j'allais plus revenir à la Fondation Marie-Vincent, j'avais, entre guillemets, guéri. Puis, je voyais cette fille qui rentrait, un peu le regard perdu, puis on a eu un moment de complicité de « on va s'en sortir ». J'étais comme toi à ce moment-là, puis aujourd'hui, je suis capable de pas me laisser définir par ce moment-là un peu plus difficile de ma vie. Donc, cette fondation-là, ça a complètement changé ma manière de voir les choses. Puis justement, le lien que tu crées avec ta psychologue, c'est quelqu'un qui est patient. Puis surtout, dans mon cas en particulier, on n'a pas les mêmes réalités du tout.
Seriez-vous où vous êtes aujourd'hui, étudiante à la maîtrise, trois fois candidate aux élections, n'eût été de cette thérapie-là?
Non. J'aurais pas été la même personne du tout. Je pense que j'aurais encore de la difficulté à fonctionner. C'est un cadeau de la vie que j'ai eu grâce à cette fondation-là, mais aussi les personnes qui étaient qualifiées, qui étaient là pour me soutenir. Parce que c'est difficile, l'enfance, l'adolescence, quand tu pars mal. Mm-hmm. Puis si c'est vraiment un cadeau de la vie de pouvoir se permettre de trouver une manière de mettre des pansements sur ces mots-là, puis de regarder la vie avec un peu plus d'espoir, de sérénité, puis de goûter au bonheur, on va dire ça comme ça.
C'est bien dit, c'est bien dit. Je me tourne maintenant vers Stéphanie Garraud, qui était à côté de vous, qui est de la Fondation Marie-Vincent. Stéphanie Garraud, salut.
Bonjour.
J'ai déjà fait un papier sur les listes d'attente qui étaient imposantes à Marie-Vincent. C'était il y a peut-être, je me souviens pas, un an et demi environ. Là. Où on en est maintenant?
Ben, je dirais que ça va mieux. On a encore malheureusement des jeunes qui sont en attente, mais il y a un gros travail qui a été fait, autant, surtout, je dirais, de l'équipe clinique. Là, on a eu une révision de la trajectoire, on offre des services d'entrée en urgence plus pour les familles, pour supporter quand il y a le dévoilement. Mais il y a eu aussi beaucoup d'argent, les donateurs privés, les bailleurs de fonds publics, les gouvernements répondus présents. Donc, on est rendu à 18 mois d'attente. On avait 2 ans. Là, donc, c'est gros 6 mois dans la vie d'un enfant. Donc, on est très heureux de pouvoir être rendu à 18 mois, mais c'est surtout que le travail continue.
Qu'est-ce qui vous manquerait à la Fondation Marie-Vincent pour que les listes d'attente, disons, sans dire qu'elles deviennent inexistantes, mais soient encore, disons, plus courte?
Ben, c'est d'une question de temps, d'argent, de personnel. Là, je dirais que le travail qui a été fait dans les 2 dernières années, on a doublé l'équipe. Là. Donc ça a eu un impact majeur. Comme je parlais là, la révision de la trajectoire de service, on offre des groupes aussi, des groupes de thérapie. Donc on peut voir plus qu'un enfant à la fois. Puis ça, c'est bénéfique pour les jeunes, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls, qu'ils ont vécu cette réalité-là.
Spontanément, Stéphanie Garraud, j'aurais pensé que des thérapies si sensibles, c'était mieux de faire ça en individuel plutôt qu'en groupe.
Ben, on doit évaluer les enfants. Donc, okay. Quand ils font une demande auprès de nous, il y a une évaluation qui est faite par nos professionnels. Puis si le jeune peut bien, on pense qu'il va bien ou qu'elle va bien répondre à une thérapie de groupe, alors on lui offre. C'est pas obligatoire. Les gens, ils ont le choix de la thérapie individuelle, de groupe. Mais ce qu'on se rend compte, là, on a fait des 6, 8 et des 9, 12 ans, là. Et il y a des liens qui se sont bâtis entre les jeunes, parce que justement, ça brise l'isolement. Mais aussi, nos cliniciennes, elles reçoivent quand même des récits en groupe, mais elles peuvent s'inspirer l'une de l'autre, elles peuvent s'épauler. Donc, pour nous, la thérapie de groupe, c'est un bilan super positif. Fait que ce qu'il nous faut, c'est du temps, puis c'est encore de la compétence.
Stéphanie, je sais que vous vous dévouez pour la Fondation Marie-Vincent, comme tous les gens qui travaillent là, mais le sujet, votre pain quotidien, c'est des enfants agressés. Est-ce que c'est lourd, des fois?
Bien, je pense que potentiellement pour les intervenantes, oui, parce que c'est elles qui reçoivent les témoignages. Nous, notre travail au niveau de la direction, c'est de les accompagner, de les entourer. Moi, comme directrice générale, quand je suis assise dans mon bureau puis que j'entends des enfants rire puis que je les vois dans le corridor, ben je pense qu'ils sont rendus à bonne place. Fait que c'est pas lourd du tout, c'est l'espoir. Ils sont rendus chez nous, on s'en occupe, puis après ça va aller mieux. Puis quand j'écoute Shofika, je trouve ça extraordinaire parce que je me dis qu'il y a un impact réel du travail qui est fait par notre équipe.
J'aime cette image-là des enfants qui rient dans les locaux de Marie-Vincent. OK, je reviens à vous, Shofika. Vos agresseurs, ils n'ont jamais été arrêtés?
Non, parce que j'ai pas eu le courage d'en parler. En fait, mon agresseur est décédé. Celui que ça a duré un bon moment est décédé il y a 2 ans. Donc, ça a été assez... ça a été difficile, on va dire ça comme ça.
Comment vous allez aujourd'hui?
Je vais bien. J'ai été très bien entourée. Après la thérapie, j'ai pu en parler à des proches. J'ai toujours été transparente aussi. Je pense que c'est lourd de pas parler de santé mentale, de briser ce tabou-là. Donc, je suis vraiment reconnaissante d'être en vie, d'avoir cet amour-là, cette passion-là. Puis, je souhaite juste pouvoir contribuer à réduire ce genre de tabou, d'enjeu que d'autres enfants peuvent vivre et malheureusement vivront en attendant qu'on ait des solutions plus à long terme pour permettre aux jeunes de pas être victimes de ce genre d'actes-là. Parce que, comme on l'a mentionné, le temps, c'est difficile. Puis plus que les gens y attendent avant d'aller chercher de l'aide, plus que c'est difficile pour l'enfant aussi. Là.
Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec les auditeurs de l'émission. C'est très touchant, très constructif. Merci beaucoup.
Merci, M. Lagacé.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Pénurie d'employés un peu partout dans plein de pans de la société, on le sait. Dans les hôpitaux, d'une part, ça, on en parle chaque jour. Dans les écoles, on a aussi une pénurie de profs. Ben, il y a aussi pénurie de chauffeurs d'autobus. Et ça, ça a des effets, là, à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, sur plusieurs familles dans un certain quartier, parce que ça fait près de 3 semaines, là, qu'il n'y a pas de service d'autobus scolaire pour ramasser les enfants le matin. Mélissa, elle nous a demandé de ne pas donner son nom de famille. Et la mère d'un enfant qui fréquente l'école primaire 1000 Sports du Centre de services scolaires Marie-Victorin. Mélissa, salut!
Oui, bonjour.
Donc, comment ça se passe depuis le 4 novembre pour vous?
Ben, en fait, la situation est problématique depuis le début de la rentrée. On le sait, il y avait une grève là, des autobus, des chauffeurs d'autobus. Ça s'était réglé, mais nous, en fait, les problèmes ont commencé dès la rentrée. Donc, dès la première semaine, on n'avait aucun service d'autobus scolaire. Fait qu'il fallait aller les porter autant le matin que le soir. Jusque-là, on pensait que c'était dû au fait que la grève venait d'être dans le fond réglé, qu'il y avait peut-être un enjeu au niveau justement du personnel, que c'est récurrent. Mais non, ça s'est placé après une semaine, on était contents, mais ça a continué d'être, récurrent jusqu'à la fin octobre. C'était on and off. Des fois, on était 2 jours, pas de transport le soir. Des fois, 2 jours le matin. Fait qu'on s'arrangeait aux parents, mais là, depuis le 4 novembre, en fait, c'est aucun service du tout le matin. On reçoit une notification sur l'application Megaphone, comme quoi il n'y aura pas de service. On reçoit ça à 6h15 pile. Puis, faut s'arranger. Autrement dit, c'est vraiment ça.
Donc c'est vraiment là, on vous donne un délai qui est très, très court. C'est 6h15, oui, là, oui. Ça laisse pas beaucoup de temps pour se revirer, là.
Non. Puis ça, c'est dans tous les cas, là. Je veux dire que ce soit en après-midi ou quand c'était de temps à autre, sur l'après-midi, on recevait, disons, une notification à 14h30. Heureusement, l'école du sport termine tard, mais elle a aussi la problématique qu'elle commence tard. Donc, si elle commence tard, ben faut que les gens arrivent plus tard au bureau, il faut qu'ils trouvent des solutions. Parce qu'il n'y a pas de solution qui est proposée. On est juste avisé que l'autobus ne passera pas à l'arrière. C'est juste ça qui se passe.
OK. Est-ce que, là, chez vous, comment vous vous arrangez? Qui fait quoi entre les deux parents?
Ben moi, je suis là le matin. Donc, sincèrement, pour moi qui est un employé de bureau, c'est moins problématique. Je réussis quand même à m'arranger. Les journées que je suis en télétravail, ben je commence plus tôt, je vais le porter. Mais les journées que je suis au bureau, forcément, j'arrive en retard. Ça, c'est un peu plus problématique parce qu'on sait, il y a beaucoup de réunions qui commencent à 9h, mais moi, je peux pas être au bureau avant 9h15. Donc, pour moi qui est un employé de bureau, je dirais peut-être que ma situation est plus facile à vivre que d'autres, mais je me mets à la place justement d'un employé d'hôpital ou ils peuvent pas moduler leur horaire comme ils veulent. Donc, c'est là que je trouve que il faudrait qu'il y ait une solution ou qu'ils avisent, ben, disons, pour la semaine au complet, il n'y aura pas de transport. Trouver une alternative. Mais là, on est avisé le matin. Donc, on vit au jour le jour. Est-ce que le service va reprendre ou non? On le sait pas.
Qu'est-ce qui vous aiderait présentement, Mélissa?
Ben, je pense qu'il devrait, les services de transport scolaire devraient travailler avec l'école parce que forcément, les élèves qui sont impactés présentement, c'est des élèves qui sont pas au service de garde autant le matin que le soir. Donc, ils sont pas inscrits. Donc, autrement dit, moi, je peux pas aller les porter, disons, à 8 heures pour être à l'heure au travail, même si l'autobus est pas là. Mais là, présentement, on a peu de communication avec l'effet qu'il y a d'accord. Vu la situation exceptionnelle, ben, soit votre enfant peut arriver plus tôt le matin ou vous pouvez le laisser un petit peu le soir si vous êtes pas capable d'être là à l'heure pile que l'autobus aurait passé. Mais là, présentement, on n'a eu aucune communication pour nous proposer au moins une alternative qui nous aiderait dans la situation actuelle.
J'ai une question, peut-être la niaiseuse, là, mais vous ne pouvez pas juste inscrire votre enfant au service de garde pour pouvoir le déposer un peu avant puis qu'il reste un peu après l'école?
Ben, ce qui arrive, c'est que c'est quand même beaucoup de coûts. Le service de garde, je pense, je vais de mémoire, mais c'est autour de 8 $ par jour. Payer 8 $ par jour, alors que normalement, j'avais pas besoin du service parce que il y a quelqu'un, tu sais, à la maison qui est là, normalement, le matin, quand il prend l'autobus, il apprend à 8h15. Donc, c'est une heure normale pour qu'il parte à l'école. Donc, moi, j'ai pas besoin du service de garde. Fait que payer quasiment 200 $, je crois, par mois, parce que le service de transport scolaire, présentement, assure pas le service qui est censé. Dans le coût de la vie actuelle, c'est pas une alternative intéressante pour moi de m'inscrire au service de garde si j'en ai pas vraiment un besoin, là.
OK. Et est-ce que, j'imagine, vous avez tenté de communiquer avec le centre de service scolaire Marie-Victorin? Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Oui, ben j'ai envoyé 2 courriels, mais j'ai pas de réponse. Encore à la rentrée, quand il y avait une problématique, j'avais une réponse. On travaille sur la situation. On est au courant de la problématique avec Millsport. Puis je pense que la problématique était dans plusieurs écoles à ce moment-là. Mais là, vous voyez, j'ai envoyé 2 courriels dernièrement juste pour savoir, ben, avez-vous une idée de quand? Parce que je me doute que c'est peut-être un congé maladie puis que c'est dur à remplacer. Mais là, c'est comme un silence radio.
Non, on comprend là que il y a une compagnie privée qui fait affaire avec la commission scolaire, mais c'est ça quand. Puis il y a sans doute des bonnes raisons. Là, je veux dire, on manque de personnel partout, mais ce serait peut-être le fun d'avoir une réponse.
Exact, parce que tu sais, je veux dire, le but d'envoyer un enfant dans une école autre que son école de quartier, c'est justement comme l'école Millsport, c'est un projet pédagogique super particulier, c'est la vocation sportive, donc c'est super intéressant. L'enfant passe par un processus, il est admis ou il est pas admis, mais forcément, ça devient pas son école de quartier, donc il peut pas y aller à pied. Donc le service doit pouvoir être maintenu. Puis que ça arrive une fois de temps en temps, c'est acceptable, mais que là, ça devient récurrent depuis le 4 novembre, puis qu'au début de la rentrée scolaire, on n'avait juste pas de service. C'est même déstabilisant pour l'enfant de dire, est-ce que ce matin, je prends l'autobus, est-ce que ce soir, je prends l'autobus? Il y a comme, même nous, on n'a pas la réponse.
Ben merci, Mélissa, de nous avoir raconté tout ça. Puis écoutez, bonne chance, on se croise les doigts pour que le service reprenne.
Ben oui, mais c'est plate pour tout le monde, là, le manque de personnel. On le comprend, c'est juste qu'il faut trouver des solutions, par contre.
Bien dit. Merci, à la prochaine.
Merci, bonne fin de journée.
Vous voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
On va aller en Mauricie parce qu'il y a une histoire absolument incroyable qui se déroule là-bas. Je vous le dis, c'est un peu drôle, mais quand on va écouter ce que notre prochain invité a à dire et qu'on est pogné avec ce problème-là, c'est peut-être un peu moins drôle. Il s'agit, mesdames et messieurs, de vaches en cavale. Il y a des vaches qui se sont échappées d'une ferme agricole, là, et c'est la petite municipalité de Saint-Sever en Mauricie qui est aux prises avec le troupeau de vaches qui s'est multiplié. Ils étaient un peu moins de 20, semble qu'elles soient rendues 30. Elles se promènent comme ça dans les champs, saccagent pas mal les récoltes, mais aussi, il y a une notion de danger public parce que des fois, la nuit, elles se ramassent sur des rangs. Donc, c'est un petit peu un casse-tête. Qui doit ramasser les vaches? Est-ce que c'est l'éleveur lui-même qui a perdu ses vaches? Est-ce que c'est la SQ? Est-ce que c'est le ministère de l'Agriculture? La SPA? Le ministère de la Faune? Les Cowboys de Saint-Tite? C'est pas une joke. On a fait appel aux Cowboys de Saint-Tite du Festival Western. Marie-André Cadorette est la directrice générale de Saint-Sever. Madame Cadorette, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, je veux pas avoir l'air de me moquer, puis je vous jure que je me moque pas, mais il y a quand même un bout qui est surréaliste parce que vous êtes pogné là-dedans. Vous essayez de trouver une solution pour attraper les vaches, puis vous n'êtes pas capable.
Disons que les Cowboys de Saint-Tite étaient mon plan Z. Et oui, c'était le dernier recours, disons-le comme ça, mais ça n'a pas fonctionné, malheureusement.
OK, commençons par le début. La première fois que vous avez entendu parler de vaches en cavale, c'était dans quelles circonstances, là, à Saint-Sever?
En fait, c'est un agriculteur de la municipalité qui nous a contactés au courant du mois d'octobre pour nous informer de la situation. Il nous informe que les vaches du producteur de la municipalité voisine se sont échappées de chez lui au courant de l'été. Donc, depuis les vacances de la construction environ. Et que là, nous, il nous appelle au mois d'octobre pour nous dire que c'est vraiment rendu problématique parce que les vaches ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts et là, traversent la rue et se rapprochent du chemin. Donc, il nous demande d'intervenir. Donc, nous, c'est à ce moment-là qu'on a été informés, donc au début du mois d'octobre, je vous dirais.
Mais là, Mme Cadorette, là, pour situer les gens, le Saint-Sever, 325 habitants, vous n'avez pas vraiment les moyens pour rattraper là, des dizaines de vaches qui ne veulent pas se faire rattraper, là?
Je n'ai aucunement les moyens de rattraper. On parle là d'une vingtaine de tares, donc qui sont des vaches adolescentes, on peut dire, et qui pour la majorité sont gestantes. Donc oui, j'ai pas les moyens de les attraper.
Donc sont gestantes, si je comprends bien là, avant longtemps, elles vont se reproduire là.
Oui, dans le fond, le propriétaire officiel des vaches les a laissées au début de l'été, au printemps, avec un taureau dans son champ. Finalement, il a rentré le taureau, mais les vaches, elles, ont été laissées à elles-mêmes et ont sauté les clôtures, ont quitté, mais pour la majorité, elles sont gestantes. Et au moment où on se parle, il y en a plusieurs qui ont commencé à vêler. Donc, avec le troupeau qui était une vingtaine de tares au début, se trouvent maintenant plusieurs petits veaux.
Ils sont combien à peu près de têtes? J'ai dit une trentaine tantôt. Est-ce que je me suis trop avancée?
Je crois que au maximum qu'on a eu, c'était 24 tares plus là peut-être 3-4 veaux. Mais malheureusement, il y en a qui sont mangés par les coyotes maintenant la nuit. Donc c'est des vaches là, qui n'ont pas d'endroit pour aller passer la nuit au chaud, qui sont courées par les coyotes, qui sont rendues craintives, qui sont rendues, vous le disiez tantôt, qui sont redevenues sauvages. Donc c'est ça.
Là, dites-moi, Mme Cadorette, là, racontez aux gens qui nous écoutent ce que le troupeau fait comme dommage, puis ce que le troupeau peut représenter comme danger aussi.
En fait, le troupeau comme dommage, le troupeau a saccagé des champs de soya, a piétiné les champs, a mangé pour des dizaines de milliers de dollars dans les champs de maïs, a mangé toutes les têtes des épis de maïs. Donc, il a laissé le reste du maïs-là, mais qui a pourri, donc qui n'a plus aucune valeur. Ils ont ouvert des sacs d'ensilage chez certains agriculteurs. Ils ont mangé beaucoup de foin. Donc, vraiment pour plusieurs dizaines de milliers de dollars chez plusieurs agriculteurs.
OK. Là vous êtes mis à faire des téléphones pour qu'on quelqu'un, quelque part, s'occupe des vaches. Racontez, là, à quel point ça devient un cauchemar bureaucratique.
Ah, ça devient un peu la maison de fous, comme dans Astérix et Obélix, je vous dirais. Ça devient un peu l'enfer. Au départ, quand on est informé, la première chose qu'on fait, nous, c'est appeler la municipalité voisine, la municipalité de Saint-Barnabé, où habite le citoyen propriétaire des vaches. Eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est aller informer le citoyen que ses vaches sont parties et lui demander de réparer ses clôtures et de récupérer ses vaches. Mais à part le demander aux citoyens en question, ils peuvent rien faire concrètement. Donc, j'utilise le levier de la cruauté animale pour m'adresser au MAPAC. Mmh. En disant, on parle de dizaines de vaches qui sont sans nourriture, qui s'abreuvent dans des cours d'eau. Donc, c'est vraiment pas ce qui est recommandé, on s'entend. Il y a des petits veaux là-dedans. Donc, au niveau de la cruauté animale, ces animaux-là ont rien à manger. Je demande au MAPAC d'intervenir. Ça prend plusieurs semaines avant d'avoir un retour du MAPAC. Et le MAPAC me confirme finalement que ce qu'ils peuvent faire, c'est émettre une amende, un constat pour ce propriétaire-là, puisque c'est quelqu'un qui est déjà bien connu chez eux. Et qu'il n'y a plus de zone tampon, ils n'ont plus de tolérance.
Ce qui ne vous aide pas, Mme Cadorette.
Ça n'aide rien.
Mais ça ne m'aide pas concrètement parce qu'ils ne me récupèrent pas mes vaches. Oui. Donc, là, je leur explique que justement, moi, c'est rendu un problème au niveau de la sécurité civile, au niveau de la sécurité routière. Les vaches traversent le chemin. On ne veut pas entendre là, personne dire mon jeune de 16 ans frapper une vache avec son civique. Là, c'est la dernière chose qu'on veut entendre. Là. Donc, et on sait que dans la municipalité voisine, il y a une de ces vaches-là qui a été frappée justement sur le chemin.
OK, ça a déjà causé un accident. Là.
Ça a déjà causé un accident.
OK, donc là, okay, le MAPAC, là, vous avez appelé la Société protectrice des animaux.
La SPA, oui, ben en premier, ensuite j'ai appelé la faune. La faune, okay, pour leur demander si, parce que le MAPAC m'explique qu'ils n'ont pas de fléchettes tranquillisantes, qu'ils n'ont rien de ça, ils ne peuvent pas me venir en aide. Donc, je contacte la faune pour leur expliquer toute la situation et leur dire que j'ai besoin que quelqu'un vienne capturer ces vaches-là. Donc, on m'explique que ce sont des bovins, donc ils ne relèvent pas de la faune, ils ne sont pas des animaux sauvages. Donc, de contacter la SPA. Okay. Donc, je contacte la SPA qui rit un peu de la situation en me disant, écoutez, on n'ira pas chercher 25 vaches, là, nous, là... C'est appeler le MAPAC. Donc, je rappelle le MAPAC et pendant ce temps-là, j'ai un sergent de la Sûreté du Québec qui est avec moi. On est en appel conférence Et j'explique au MAPAC là, que j'ai appelé la FONG, j'ai appelé la SPA et on me retourne à eux. Donc, j'ai vraiment besoin de leur aide parce que moi, la situation est pas réglée et c'est de plus en plus dangereux. Et là, ils me disent, ben, je crois, Madame Cadorette, que vous êtes rendue à les abattre. Donc, je lui demande, c'est qui ça, vous? Vous êtes rendue à les abattre. Et là, on me dit, vous, la municipalité. Mais vous, la municipalité, là, c'est moi en talon aiguille et en robe dans mon bureau. Là, on est une petite municipalité. Là. Vous comprendrez que moi, je pars pas à la chasse aux vaches. Là. Donc là, ils me disent, je leur dis ça textuellement, ce que je viens de vous dire. Et là, ils me disent, demandez à la Sûreté du Québec de les abattre. J'ai justement la Sûreté du Québec avec moi. Et le policier s'empresse de répondre, écoutez, nous allons pas aller abattre 20 vaches à bout portant, des jeunes vaches en santé avec des veaux. Il est hors de question qu'on fasse ça. Donc, on tourne en rond. Donc, j'ai dit, ben écoutez, j'ai un plan Z. Je vais appeler le Festival Western de Saint-Tite puis je vais leur demander des cow-boys pour venir attraper les vaches.
Le je vous arrête une seconde. Là, oui. Madame Cadorette, là, vous appelez le Festival Saint-Tite puis vous dites, j'ai besoin de cow-boys pour pogner des vaches au lasso.
Hey, ça a l'air fou, hein, mais oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé la directrice générale du Festival Western de Saint-Tite qui a été... La première personne à m'écouter et à être aidante, à dire « je comprends, puis c'est pas loufoque, si vous saviez, c'est qu'à tous les jours dans l'Ouest canadien, des cow-boys qui attrapent des vaches, je vais vous trouver des gens. » Donc, ils m'ont référé une équipe, 9 cow-boys qui venaient de la région, les Cèdres, puis ils sont arrivés chez nous, bien équipés, vraiment confiants de les attraper, une immense journée, entre 10 et 12 heures de travail. Je veux dire, ils ont vraiment travaillé fort. Et eux, ils nous ont pris au sérieux, et je vous dirais, dans tous les organismes, toutes les portes à laquelle j'ai connu, même si ça n'a pas fonctionné, c'est les seuls qui étaient prêts à nous aider.
Puis, si vous dites les seuls qui étaient prêts à nous aider puis qu'on est en train de se parler, c'est que ça n'a pas marché.
Ça n'a pas fonctionné parce que au début de la journée, ils ont réussi à les encercler, ils pensaient les avoir, il y en avait une vingtaine, mais malheureusement, les récoltes n'étaient pas toutes faites et quand ils sont arrivés vers un champ de maïs, les vaches se sont faufilées à travers le maïs et là, on les a perdues, on n'a pas été capable de les récupérer. Donc, malgré leurs efforts, malgré le drone, ils se sont dispersés et on n'a pas été capable de les ramener.
Là, j'entends des auditeurs d'ici, Mme Cadorette, là, dire ben, « une vache, là, c'est tellement lent que c'est pas difficile à pogner ».
Non. Elles courent comme des chevreuils. Elles sautent les clôtures habituellement pour les vaches. Elles les sautent comme des chevreuils. Elles sont vraiment rendues comme à l'état sauvage. C'est impressionnant pour vrai. Là.
Mais, madame, est-ce qu'elles peuvent survivre à l'hiver?
Honnêtement, on me dit que oui. J'en doute. On me dit que oui, au même titre qu'un chevreuil, elle pourrait manger des petites branches, tout ça. Je vous dirais que là, ce qu'elle semble vouloir faire, c'est se rapprocher probablement des bâtiments, des agriculteurs, parce que pour aller ouvrir justement des sacs de foin, des sacs d'ensilage, chercher de la chaleur.
C'est un cauchemar.
C'est un cauchemar aussi. Oui, on parle pour le bien-être animal, pour ces petits veaux-là et tout, mais ma sécurité routière n'est pas plus réglée, moi. C'est là, présentement, elle ne semble plus être dans la municipalité de Saint-Sébert. Quoique, hier, on a eu un agriculteur qui nous disait qu'ils ont eu des pistes dans la neige, donc qui probablement serait sur le chemin du retour vers chez nous. Mais moi, au niveau de la sécurité routière, c'est problématique. On est en campagne, j'ai pas des rangs éclairés comme les rues de la ville. Je veux pas avoir un accident de la route possiblement mortel pour une situation aussi farfelue que des vaches en liberté.
Écoutez, je sympathise, Mme Cadorette. Je ne sais pas comment vous allez vous sortir de ça. On ne souhaite pas de mal à ces bêtes-là, mais je pense que l'hiver va peut-être vous aider à régler le problème. Là. Écoutez, je lisais ça dans le Nouvelliste ce matin, un texte de Sébastien Hull, puis honnêtement, je voulais vraiment vous parler parce que ça me semble être un problème insoluble si l'hiver ne fait pas sa job.
Écoutez, je vous dirais que les cow-boys, c'était mon plan Z. Je vous cacherai pas que j'ai pas tant d'autres solutions qui me viennent en tête.
Ben, peut-être prendre votre cours de port d'armes puis régler le problème vous-même.
Ça semblait être la solution du MAPAC, oui, m'envoyer à la chasse à la vache, mais je vous dirais que non, je vais chercher autre chose. Je suis inventive, croyez-moi, je vais trouver autre chose.
Devenir productrice de lait forestier, vous seriez la seule au monde.
Possiblement.
Madame Cadorette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance. Tenez-nous au courant, on va faire des suivis.
Ben, merci beaucoup. Et si vous avez une idée de génie, gênez-vous pas. Ben,
on cherche.
Pas de problème. Pas de problème.
Merci, au revoir. Salut.
Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
On a appris que Fadi Daguerre allait devenir le nouveau chef de police de la ville de Montréal. C'était pas un scénario qui était favorisé. Là, je me souviens que dans le Journal de Montréal, il y a quelques jours, on parlait des derniers candidats en liste là, sur la foi de sources à l'interne. M. Daguerre n'était pas dans ces candidats pressentis. Pourquoi? Ben, notamment parce que même s'il a grandi au service de police de la ville de Montréal, M. Daguerre était bien attaché avec un contrat de 8 ans signé il y a 1 an à la ville de Longueuil comme chef de police là-bas. Ben, on a su trouver les arguments, semble-t-il, pour le convaincre. On va écouter un extrait de la conférence de presse où on présentait Fadi Daguerre à la presse montréalaise.
Depuis 6 ans, on n'a jamais fait, jamais dans l'histoire du SPAL, autant de perquisitions de stupéfiants et d'arrestations. Et pourtant, c'est moi qui est là avec eux. Et en même temps, on fait de la prévention et de la concertation. Les deux peuvent se marier. Ils n'ont rien à craindre. Moi, ce qui est important, ce que mes hommes et mes femmes qui sont sur le terrain travaillent du renseignement criminel. Je veux pas qu'on aille à la pêche. Je veux qu'on aille à la chasse.
Valérie Plante est la mairesse de Montréal. Elle a présenté M. Daguerre comme la perle rare que la ville recherchait. Elle est au bout du fil. Madame la mairesse, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Pourquoi c'était Fadi Daguerre, la perle rare?
Ben parce qu'en fait, la vision qu'on a pour la sécurité urbaine à Montréal, pour nous, elle est assez, entre autres, sur la prévention. Il y a bien sûr tout l'aspect là, de diminuer le nombre de coups de feu tirés, entre autres, en luttant contre les groupes criminalisés, en s'attaquant au réseau de transfert d'armes. Mais il y a l'aspect de la prévention également et du lien fort qui doit exister entre la population et le service de police. Donc, pour l'administration, pour nous, c'est important. Et pour M. Daguerre aussi. Alors, je trouve que c'est un bon mariage.
OK, c'est un bon mariage. Vous aviez... À quel moment il est apparu sur votre radar, M. Daguerre? Il était très médiatisé quand il était chef de police à Longueuil. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait qui vous a fait penser que c'était lui la perle rare?
Ben, tout d'abord, moi, M. Daguerre, je le regarde évoluer là, depuis longtemps. Dans son travail, on s'est dû rencontrer à plusieurs reprises dans différents forums, entre autres de l'UMQ. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment M. Prudhomme, qui est le directeur adjoint à la sécurité publique à la ville de Montréal, qui a invité M. Daguerre à venir aux entrevues. Donc, M. Daguerre n'avait pas postulé, il a été invité. Et puis voilà, ça a été unanime au sein du comité de sélection sur lequel je ne siège pas. Mais il y a les membres de l'opposition, des membres de l'administration. Et puis, il y a eu un choix unanime pour M. Daguerre.
OK, mais vous siégez pas là, mais Mme la mairesse, quand même, vous êtes la première citoyenne de la ville. Il y a quand même des qualités que vous cherchiez chez un ou une chef de police. Et il y a sans doute aussi des choses que vous vouliez pas dans un ou une chef de police. Qu'est-ce que vous vouliez pas?
C'est sûr. Je suis plutôt axée sur ce que je veux, là. Parce qu'en plus, qu'est-ce que moi je souhaite? Mais vous savez, on avait mis une consultation publique, là, on avait discuté avec les policiers et la société civile. Donc, moi, ce qui est ressorti de la consultation publique correspondait à ce que je voulais. Donc, j'ai envie de vous répondre plutôt à qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce qu'on souhaitait plutôt que qu'est-ce qu'on souhaitait pas, ça serait le contraire. Donc, nécessairement, là, l'idée de la communication, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. La communication avec la population, mais aussi la communication entre la ville de Montréal et les services de police de la ville de Montréal. Puis aussi, je dirais un élément vraiment pertinent, c'est oui, un policier ou une policière, ça, les policiers l'avaient demandé, ils espéraient que ça soit une personne qui soit issue de la police. Mais pour moi, c'était surtout l'aspect de la comprendre la complexité des enjeux montréalais, puis dans le contexte où ça évolue, hein, les mentalités évoluent, les exigences évoluent, les outils évoluent, donc il faut qu'on ait une personne qui est confortable dans cette complexité-là, qui comprend les enjeux.
OK. Est-ce que c'est important pour vous que ce soit quelqu'un qui soit pas je reformule ma question, Mme la mairesse. C'est-tu important que ce soit quelqu'un qui soit issu de la diversité?
Ben, pour moi, c'est un plus. Je ne vais pas le cacher, là. Mais en même temps, si M. Daguerre n'avait pas eu les compétences, il n'aurait pas eu de poste. C'est sûr, là. Mais est-ce que c'est un plus? Absolument. Surtout que M. Daguerre a démontré, je veux dire, c'est le premier à dire, par exemple, à parler de son parcours, puis comment ça l'a amené à voir les deux côtés de la médaille en étant lui-même un immigrant, d'être un homme racisé et d'avoir choisi une profession comme policier. Fait que ça lui permet de voir, de comprendre et d'avoir une compréhension, une sensibilité, j'ai envie de vous dire, face à certaines réalités que vit la population. Fait que c'est sûr que c'est un plus.
OK. Est-ce que ça vous inquiète d'entendre les histoires de désengagement policier? De policiers, c'est difficile à quantifier, là, mais de policiers qui disent pas vouloir intervenir dans certaines situations, de peur d'être critiqué, de peur de devoir rendre des comptes parce qu'ils sont filmés, par exemple. Est-ce que ça, ça vous inquiète?
Ben oui, c'est sûr que ça m'inquiète dans la mesure où on veut que les policiers se sentent outillés et soutenus à faire le travail qu'ils ont besoin de faire. Puis là-dessus aussi, M. Daguerre et moi, on est d'accord, il y a un équilibre. Oui, il faut de la prévention absolument, puis sur le court, moyen et long terme, mais il faut aussi, on va se dire, de la répression, ou du moins de permettre, quand c'est nécessaire, encore une fois, quand on parle d'armes à feu puis de groupes criminalisés, c'est pas des enfants de cœur, là, il faut faire ce qui est nécessaire. Donc, pour moi, quand je parle d'outils aussi, c'est important parce que les policiers vont beaucoup nous rappeler quand je vais les rencontrer dans les postes de quartier, c'est on a besoin d'être, oui, soutenus, mais aussi d'avoir soit plus d'effectifs ou d'avoir des remplacements parce qu'ils sont fatigués et d'avoir des outils, entre autres, je pense aux caméras portatives qu'on espère très, très prochainement.
OK. Monsieur Daguerre a un contrat de 7 ans. La tradition, c'est de 5 ans. Pourquoi 7 ans?
Ben écoutez, parce que la décision était, le choix était unanime à l'intérieur du comité de sélection. Puis ce qui a été discuté, c'est que M. Daguerre a un contrat de 8 ans, avait un contrat de 8 ans avec Longueuil. Donc le comité a dit on le veut. Donc puis moi j'étais d'accord. Je souhaite je pense que c'est la personne qui va nous amener plus loin, amener encore une fois la vision qu'on a, là, le modèle montréalais dont je parle souvent, qui est évolutif, mais pour nous, c'était la bonne personne. Je suis contente que le comité de sélection ait été choisi. Là, il était unanime de dire, bon, ben, on met ça sur la table. On n'attire pas des mots avec du vinaigre.
Je comprends. Monsieur Daguerre a dit dans la conférence de presse tantôt, Mme Plante, que le modèle qui a commencé à implanter à Longueuil, une police plus sociale, qui intervient avant qu'il y ait des problèmes là, pour réduire les appels au 911, il n'allait pas le transposer à Montréal directement, pas faire un copier-coller. Il me semble que c'est un peu pour ça que vous êtes allé le chercher, non?
Oui et non. C'est-à-dire que je trouve ça très sage de la part de M. Daguerre de ne pas dire, ben, écoutez, Montréal et Longueuil, c'est la même affaire. On partage des enjeux, bien sûr, mais de dire, écoutez, je vais prendre le temps d'évaluer ce qui se passe, puis on ne se cachera pas non plus. Le SPVM, c'est un grand corps de police qui existe depuis longtemps, qui est le seul corps de police de petite fin. Il y en a plein de choses qu'on fait, nous aussi, pour prévenir en amont. Là, il n'y a pas une page blanche non plus, là. Hein, que ce soit les escouades avec pour soutenir les personnes en situation d'itinérance, c'est un policier, un travailleur social, même chose pour soutenir les communautés autochtones. Donc, il y a d'innovation, de l'ordre, de cette proximité, d'être proche du citoyen. Donc, moi, je pense que M. Daguerre arrive et je l'ai dit, j'ai envie que M. Daguerre prenne le corps de police de Montréal, fasse une évaluation, prenne ce qui est excellent parce qu'il y en a des bonnes choses au SPVM et vienne comme l'amplifier, renforcer avec, bien sûr, ses idées à lui qui va devoir soumettre et voir comment ça évolue à l'intérieur du SPVM.
En terminant, Mme la mairesse, là, la conférence de presse de M. Daguerre a été perturbée par quelqu'un qui était manifestement perturbé.
Oui,
un citoyen qui est venu poser des questions. On me dit que c'est votre bureau qui a permis qu'il soit là alors qu'il n'est pas journaliste. Est-ce que c'est exact?
Ben en fait, non, on n'a pas permis nécessairement. Il faut savoir que le matin, il y avait la commission de la sécurité publique. Okay. Et il y avait quelques personnes qui ont assisté, qui sont restées sur place. Puis évidemment, ben c'est la maison des citoyens et citoyennes, donc on ne met pas les gens dehors. Donc, mais M. Duval, on le connaît bien. C'est un monsieur qui vient au conseil municipal, au conseil d'arrondissement. Et puis, voilà, il a le droit de s'exprimer. Et puis, M. Daguerre a bien géré la situation là à ce moment-là, d'aller le voir parce que
ben oui, M. Daguerre est tout de suite tombé dans l'action et est allé voir le monsieur agité pour lui promettre qu'il allait le rencontrer.
Ben voilà, juste pour que, en fait, c'est surtout que le citoyen avait besoin de se sentir entendu. Et puis c'est ce que M. Daguerre a fait. Puis comme je le dis, c'est après tout, c'est la maison des citoyens, donc je pense que c'était la bonne chose à faire.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Au revoir.
À la prochaine.
Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.